France Culture.
C'est un très 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 bel bâtiment, hein, c'est Gare de l'Est. J'y vais parfois à pied d'ici et j'aime bien l'idée de cette gare.
Pardon, je vous sers comme ça.
Moi, je ne me donne pas beaucoup.
Je te demande
juste de l'eau, s'il te plaît.
De l'eau ? Je rajoute de l'eau, c'est ça ?
S'il te plaît.
On allait à la gare de l'Est pour donner des paquets à des gens qui partaient en Pologne pour amener des choses à des amis, à la famille. Et moi, je me souviens, j'avais envoyé de la gare de l'Est, oui, à ton frère. Et puis même avant, quand tu étais encore en Pologne, j'envoyais par les gens qui partaient de la gare de l'Est. Donc j'allais régulièrement à la gare de l'Est, et c'est complètement, ça m'est sorti de mémoire, pour demander à des gens que je connaissais pas. Est-ce que vous pouvez prendre un petit paquet ? C'est comme ça que j'ai envoyé les mandarines à ton père.
Oui, on peut dire que c'est un endroit très riche en émotions et en actions, en quelque sorte, puisque en envoyant les livres, les denrées alimentaires, même des cassettes vidéo avec des films interdits. En Pologne, à partir de la gare de l'Est, il y avait bien sûr ces gens-là qui le faisaient et qui prenaient les risques, parce que c'était quand même un risque. La frontière allemande était très très dure. Mon souvenir, parce que j'en ai quand même un de la gare de l'Est, c'était quand je venais en France, à Paris, en tant qu'étudiante, j'étudiais les lettres françaises. Et je repartais en Pologne aussi de la gare de l'Est. Et je me souviens de cette frontière allemande qui me faisait vraiment, je suis née après la guerre, mais qui me faisait vraiment penser à... Aux SS, il y avait des chiens qui aboyaient, des gens qu'on obligeait à se déshabiller, des fouilles très poussées, parce que j'étais plutôt liée à des milieux de position. J'en ai une de fouilles comme ça.
Et la première fois que je suis retournée en Pologne, j'avais le peur au ventre, j'avais peur qu'ils vont m'arrêter. Je suis partie de Pologne et c'est resté, la peur est restée dans ma tête pendant longtemps, très longtemps.
Gare de l'Est, aller et retour. Une émission de Christine Le Cerf et Franck Lilin.
Sur une idée d'Adam Birou.
Je vais vous dire, pour moi, l'Est, c'est aussi une hantise. Je suis une enfant de la guerre froide. Une enfant allemande, ouest allemande. Donc l'Est, pour moi, c'est une limite très claire. C'est le mur de Berlin. L'Est, c'est au-delà du mur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai visité une fois Berlin-Est, avant la chute du mur, loin avant. Et depuis, je ne suis jamais allée plus loin que Leipzig. Grande voyageuse, j'ai jamais visité l'Est. Le souvenir de cette ville, de secteur soviétique à l'époque, de Berlin-Est, des rues désertiques, des gens qui chuchotaient à voix basse de peur d'être entendus par la Stasi. Donc il y a toujours quelque chose de menaçant.
J'ai fait quelques voyages à l'Est adolescente. J'étais en Hongrie, j'avais 14 ans. Donc je me souviens de ces passages difficiles de frontières. Bon, la Hongrie était quand même un pays assez libéral par rapport à beaucoup d'autres, en particulier la RDA. Je fais partie encore d'une génération qui a grandi dans la guerre froide. Je dirais que j'ai grandi avec cette évidence d'une Europe coupée en deux, d'une réalité qui m'était toujours présentée comme quasiment immuable.
Une chose est très importante dans l'imaginaire tchèque, justement, de ce point de vue, et c'est le train Prague-Paris, Paris-Prague, la ligne directe qui symbolisait aussi ça. Parce que ce train-là partait l'après-midi de Prague et dans les souvenirs, les gens qui le prenaient pas, mais qui restaient au pays, le regardaient, c'était l'air, en fait, l'air, c'était pareil comme les oiseaux migrateurs, quoi. On les regarde, on voyage pas avec eux, mais ce sont eux qui portent en nous l'image de la possibilité de traverser des frontières, quoi. Donc l'expression de la liberté.
Permettez-moi de vous dire, de vous faire une confidence. Je suis parti de Roumanie et que j'avais donc 39 ans. Je n'étais jamais sorti de mon pays. C'est la première fois qu'on met les pieds dans un pays étranger. Ah ben, je peux vous dire, le fait qu'on est en France, on n'a pas peur. Parce que on est en France, c'est-à-dire on est dans un pays de liberté. Il faut savoir que nous venons d'un pays, on va dire, de l'obscurité et on se dirige vers Paris comme la ville de lumière, comme la ville de l'espérance. Il y a une impatience, vous voyez, de franchir les quais de la gare et de mettre ses pas dans la rue de Paris. Et bien sûr que la première chose qu'on regarde, qu'on cherche avec le regard, c'est la Tour Eiffel. C'est parce que pour être sûr qu'on est à Paris. Si vous voulez.
C'était, je dirais, un lieu de bonheur, mais aussi de, comme vous dites, de la peur, de l'angoisse, à cause de cette Europe de l'Est qui était un pays complètement étranger. On ne traversait pas seulement les frontières géographiques, on traversait vraiment. Des frontières mentales, culturelles, politiques, amicales, amoureuses. C'était tout ça, la gare de l'Est.
Troisième épisode, derrière le rideau de fer.
Les frontières étaient mobiles dans cette région. Elles changeaient selon les guerres qui se déroulaient. Ce n'était pas la bonne période pour naître. Je m'appelle Rachel Hertel. Je suis née en 1939. Ma ville de naissance est Slonim. C'était en 1939... la Lituanie polonaise. La Deuxième Guerre mondiale, je l'ai passée en Sibérie, où mes parents étaient déportés. Je n'ai aucun souvenir de Sibérie. Tout a été effacé. Et puis, après la guerre, nous sommes rentrés en Pologne. C'était le plus grand cimetière du monde. Avant la guerre, 3 250 000 juifs qui vivaient en Pologne. Quand nous sommes rentrés, il n'y avait plus personne. Seuls ceux qui s'étaient réfugiés en Union soviétique sont rentrés. À peu près 250 000 personnes. Et je suis arrivée en France en 1949, en février 1949, je suis arrivée à la gare de l'Est.
Je m'appelle Dorothea Bonnekamp, je suis historienne de formation, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et plus particulièrement de l'exil juif en France. Fin de la guerre. Paris, la France, devient en 1945 un vaste centre de rapatriement, souvent par la gare de l'Est, sont les milliers de STO, de prisonniers de guerre, de réfugiés, qui arrivent chaque jour, parmi eux aussi, ce sont bien sûr, c'est le retour des déportés, hein, qui se fait aussi par la gare de l'Est. J'en ai trouvé plusieurs qui reviennent gare de l'Est. Par exemple, une jeune rescapée d'Auschwitz, Margot Rauch, qui a accueilli gare de l'Est, alors qu'elle porte encore les vêtements infects du camp, quoi, et les chaussures trouées. 40 000 rescapés des camps, à la fois juifs et politiques, reviennent également par la gare de l'Est.
Et il y a une date, c'est pas la seule, mais une date particulièrement marquante, c'était le 29 avril 1945, un des tout premiers convois ramenant des déportés du camp de Birkenau. On est sur le quai, il y a une fanfare qui joue la Marseillaise, un piquet militaire qui rend les honneurs. Les déportés sont devant, ils sont restés dans leurs uniformes rayés des camps. Derrière, il y a les prisonniers de guerre, et puis derrière, les travailleurs du STO, du service du travail obligatoire. Et il faut imaginer, évidemment, que ces gens qui rentraient d'Allemagne, ben, ils étaient attendus. Il y avait des familles qui, lorsqu'elles le pouvaient, étaient là, près de la gare, à la descente des trains, pour retrouver, ou espérer retrouver, leurs proches.
Le train, pour moi, ce sont les trains scellés, les trains fermés des déportations. C'est à ça que je pense maintenant, rétrospectivement. Je revois le film de Lanzmann, Shoah, où effectivement les trains, et c'était les trains de la déportation. Et la Pologne était aussi antisémite qu'avant la guerre. La Pologne a eu, comment dire, perpétré des pogroms, notamment le pogrom de Kielce. En 1946, toute la communauté revenue de l'Union soviétique dans la ville a été égorgée. Les Juifs, qui étaient reconnaissables pour les Polonais, étaient descendus de leur terrain quand ils se déplaçaient et étaient assassinés au bord des voies des trains. Et donc, la moitié de la population juive revenue de l'Union soviétique est parti vers l'ouest, les uns vers la Palestine, encore, ce n'était pas encore Israël, et puis vers d'où nous sommes partis, pour la France. Je me souviens peu de mon départ. Je sais que ça a été une longue traversée. J'ai écrit dans mes mémoires, après la Sibérie, après la Pologne, nous arrivons à Paris fin 48 à la gare de l'Est, comme il se doit, sous une pluie battante. Nouvelle frontière, nouveau pays, nouvelle langue.
La gare de l'Est est un vrai lieu de mémoire pour l'Europe centrale. Un lieu de mémoire qu'on a peut-être oublié, ou pour l'instant oublié, dans les mémoires diaspora de l'Europe centrale. On va assister à la disparition de la diaspora juive à ce moment-là, quasiment.
Je m'appelle Dan Bursea. Je suis né en Roumanie, dans un petit village de la plaine roumaine, pas loin de Bucarest. Une partie importante de l'exil roumain avant la guerre, mais surtout entre les deux guerres, c'est l'exil de la population juive de Roumanie. L'arrivée des régimes par la suite qui se sont avérés des régimes anti-juifs, l'arrivée des pogroms dont on connaît la triste histoire, continuité historique, si vous voulez, y compris dans le paysage roumain, fait que il y a beaucoup de personnalités juives qui choisissent l'exil. Et nous connaissons, bien sûr, les noms les plus importants, dont, bien sûr, Tristan Tzara, qui passe par Genève, où il fonde le dadaïsme, et qui arrive ensuite à Paris. Mais il y a aussi Benjamin Fondane, Il y a aussi Gerasim Lucas. Il y a aussi celui qui reste encore peu publié en France, qui est Ilarie Voronka. Et bien sûr, il ne faut pas oublier Paul Celan. Paul Celan qui arrive pour faire ses études à Paris, qui sera bien sûr plus connu par la suite, après bien sûr sa mort tragique en France. Il s'agit d'une génération, si vous voulez, que moi personnellement j'appellerais la génération de poètes maudits, maudits par l'histoire. Ce sont des poètes déracinés, doublement, mais peut-être même triplement déracinés de leur pays, de leurs origines, mais aussi de leur langue. Et même après la guerre, même après la fin du fascisme et de la barbarie, ils n'ont pas réussi, si vous voulez, à survivre, à surmonter cette horreur, parce que la violence subie est tellement grande. Il suffit de donner l'exemple, bien sûr, de Fondan qui meurt à Auschwitz, de Gerasim Luka qui se suicide, de Voronka qui se suicide également. Si vous voulez une image de cette génération-là, je crois que c'est celle de l'étoile sans nom. Et c'est un symbole, cette étoile sans nom, ce Star of Aranome, qui est, si vous voulez, même, je dirais même, le nom de l'artiste, de l'écrivain de l'après-guerre en Roumanie. Parce que le régime fasciste est suivi par le régime communiste, et tout recommence, et tout disparaît encore une fois, et tout ce qui s'ajoute, c'est toujours une étoile sans nom.
Donc, nous arrivons à Paris, nous emménageons dans le 10e arrondissement de Paris, tout à côté de l'hôpital de la Riboisière, au 9 rue Guy Patin. Le 9 rue Guy Patin avait été créé par des associations caritatives pour accueillir en général des artistes, des écrivains, des poètes, des peintres, des chanteurs. Ce devient un phalanstère yiddish qui grouille de vie d'un monde perdu, en fait. Un monde perdu de rescapés, transférés d'Europe de l'Est vers la capitale de la liberté. Moi, j'avais une dizaine d'années, je ne connaissais pas la langue, je n'étais pas scolarisée, j'étais livrée donc à moi-même et je me promenais dans ce 10e arrondissement jusqu'au boulevard Ornano et en fait, je me donnais des repères pour ne pas me perdre. Et entre la gare du Nord et la gare de l'Est, je comptais les marches pour accéder à l'une et à l'autre gare. Et je revenais vers mon centre qui était ce phalanstère.
Je m'appelle Marianne Alster. Je suis né à Varsovie, en Pologne, 24 septembre 48. Ma femme a écrit un livre de souvenirs. Et ce livre de souvenirs commence par un chapitre Notre arrivée, gare de l'Est. Ma femme est l'enfant de deux jeunes Polonais qui fuyaient la Pologne en 1939 se sont retrouvés en Ouzbékistan. Ma femme a été conçue à Samarcande. Elle est née pendant leur voyage déjà vers Occident, après la guerre, en Autriche. Et donc, ils sont arrivés en 48, Gare de l'Est. Elle avait un an et demi, ses parents 25, 27 ans. Ils ne parlaient pas français, ils parlaient yiddish, russe, polonais, mais pas français. Mon beau-père, futur beau-père, a dû téléphoner à quelqu'un qui devait les rassurer les premiers contacts. Il devait donner rendez-vous. Il a regardé autour en téléphonant. Il a vu les panneaux métro, plus bas les panneaux sortie. Il a donné rendez-vous au métro sortie. Et c'est par cette anecdote que commence son livre. Et ce qui est assez émouvant, c'est que c'est l'année de ma naissance et ma future femme est passée aussi, elle, par Gare de l'Est. Ça fait partie de ce qu'on raconte dans la famille, à elle et maintenant à moi.
Je m'appelle Patrice Amargé. Écrire sur la Gare de l'Est, qui était en quelque sorte la gare de ma famille, ça a été en fait l'occasion pour moi d'une plongée dans l'histoire des chemins de fer, mais aussi d'une plongée dans l'histoire de toute l'Europe. Les gares, les chemins de fer, ils avaient été faits notamment pour abolir les frontières, pour permettre de passer facilement d'un pays à l'autre. Et le symbole, ça avait été l'Orient Express qui traversait toutes les frontières. Mais ces frontières, ben, la force des choses et la politique et des guerres font qu'en fait, elles bougent. Cette gare de l'Est, qui avait été construite à l'origine pour être une gare de paix, une gare qui unissait les peuples, une gare qui desservait les pays voisins, elle s'est trouvée par la force des choses être une gare des guerres. Et puis, en 1945, qu'est-ce qu'on va voir arriver ? La guerre froide. Tout d'un coup, toute cette Europe centrale qui était desservie, entre autres par l'Orient Express, entre autres à partir de la gare de l'Est, pouf, elle se ferme par le rideau de fer.
Je m'appelle Jiří Hnilica, je suis né à Prague, en République tchèque actuelle, en Tchécoslovaquie à l'époque. Et je suis un habitué de ces grands flux de voyages européens entre le centre de l'Europe et la France. Les frontières de ce fameux rideau de fer vont se fermer petit à petit, étape par étape. Entre 48 et 50, on peut voir que la frontière reste encore poreuse, donc les flux peuvent se faire. Et après, à partir de 1950, c'est quasiment plus possible de traverser la frontière. Ça devient très compliqué.
Je m'appelle Yuli Falou. J'avais presque 10 ans. On vivait dans l'enfermement le plus complet. Il n'était pas question de voyager. Donc l'idée de traverser la frontière, d'aller plus loin, et surtout d'aller en France et d'aller à Paris, qui était le pays que mes parents aimaient par-dessus tout, c'était pour moi la réalisation d'un rêve. Paris était la ville de toutes les lumières, de tous les miracles. Je vous ai amené une photo. Cette photo montre la gare de l'Est il y a 90 ans, en 1935. Sur la photo, on voit que c'est l'arrivée d'une jeune femme qui est reçue avec un grand bouquet de fleurs par ses amis parisiens qui l'attendent. Et la jeune femme qui arrive avec le bouquet de fleurs, c'est ma mère, qui arrive à Paris à la gare de l'Est. En fait, elle est partie depuis 1932 en tant que jeune artiste plein d'espoir, en se disant que venir à Paris, dans la capitale des arts, elle va pouvoir continuer ses études, continuer à œuvrer dans le dessin, dans la peinture et dans tout ce qu'elle a commencé déjà à Budapest, puisque elle venait de Budapest. Et chaque été, elle retournait en Hongrie pour voir sa famille, mais ce n'était qu'un séjour d'été et elle revenait à Paris toujours, pendant 13 ans, comme ça, jusqu'à 1945. Et c'est en 1945 qu'avec son futur mari, ils ont décidé de retourner en Hongrie définitivement, entre guillemets, pour reconstruire le pays après la guerre et, comme on dit, aller vers un avenir radieux, c'est-à-dire dans l'espoir d'un pays qui deviendrait un pays socialiste, de gauche, communiste, et pas le pays qu'ils ont connu et fui auparavant. L'expérience a pris fin avec l'arrivée des chars russes qui sont entrés à Budapest en 1956. Et là, ils ont dit non, c'est fini, on rentre à Paris. Et donc, ils sont revenus à Paris. Voilà. Et moi, j'étais née entre-temps, donc je suis venue à Paris pour la première fois, à ce moment-là, en 57, en fait. Et j'avais pas tout à fait, mais presque 10 ans. On m'avait dit qu'on resterait 15 jours en vacances, mais il se trouve que les 15 jours se sont prolongés jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 68 ans que dure ce voyage. Voilà.
Je suis Antoine Marès, historien de l'Europe centrale et médiane au XXe siècle.
La guerre froide, c'est une rupture radicale pour l'Europe. Les pays de l'Est, qui constituent désormais l'Europe de l'Est, sont les pays absorbés par l'Union soviétique. Donc, à partir de 1945 et jusqu'en 1989, jusqu'à l'automne 1989, nous assistons à des flux continus, avec des mouvements parfois plus massifs, de citoyens du bloc de l'Est, soit qu'ils aient été chassés, soit qu'ils aient réussi à s'échapper de leur pays. Ces départs sont scandés par quelques dates phares. 1956, l'écrasement sanglant de la révolte hongroise à Budapest. 1968, avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, le 21 août. Et de 68 au début des années 80, avec les différentes vagues polonaises, au rythme des révoltes et des répressions continues, naissance de solidarité, écrasement de solidarité, etc., etc. Paris est le réceptacle de tous ceux qui fuient ces nouveaux régimes d'Europe de l'Est.
Il faut se mettre dans la tête que les pays de l'Est, pas que la Hongrie, les pays de l'Est étaient hermétiquement fermés. On ne passait pas la frontière, même pas clandestinement. On tirait à vue. C'était inconcevable de partir. C'était fermé. Je m'appelle Adam Biro, en hongrois Biro Adam. Je suis né en septembre 1941 à Budapest, capitale de la Hongrie. Je suis arrivé en France suite à la révolution de 1956, le jour de Noël 1956, à la gare de l'Est, où m'attendait une dame de la Croix-Rouge. Alors, je suis parti le 9 décembre 1956 avec mon meilleur copain de classe, on avait 15 ans. Ma mère nous a accompagnés jusqu'à la frontière avec l'Autriche, bien sûr, où il y avait un passeur que ma mère a acheté, avec qui nous avons fait 32 kilomètres la nuit. C'est un hiver très dur, l'hiver de 56, et il y avait des sillons qui étaient durcis, qui gelaient. C'était très dur. J'avais un petit sac à dos avec un volume de nouvelles d'Anatole France, qui s'appelle Le Roi Bois, que j'ai toujours, le volume. J'avais un oreiller et un kilo de salami. Voilà. On s'est égaré. Après, c'est ce qu'on appelle le no man's land. On est arrivé en Autriche. Et un gars nous a dit, écoutez les gamins, c'était hongrois, allez à l'ambassade de France, ils acceptent tout le monde. Ce que nous avons fait, c'était vrai, sans distinction d'âge, maladie, peu importe, on a dit, demain à midi, à Südbahnhof, il y a un train qui part pour Paris. Nous y sommes allés avec mon copain Gabi le lendemain à midi. On a pris le train, fermé à clé, pour que les gens ne descendent pas en route en Allemagne, parce qu'ils voulaient aller, beaucoup voulaient aller en Allemagne. Et on est arrivé à Paris, Gare de l'Est.
Je m'appelle Clara Royer. J'ai beaucoup travaillé sur les écrivains juifs ou d'origine juive, hongrois. Alors, quand la révolution hongroise est écrasée, le 4 novembre par les chars soviétiques, les 2000 chars qui roulent sur Budapest et qui massacrent les insurgés, provoquant 2000 morts. Les frontières avec, d'une part l'Autriche, d'autre part la Yougoslavie, sont encore ouvertes. Et elles vont l'être à peu près jusqu'en mai 57. Et par ces portes-là, fuient 200 000 Hongrois, qui vont donc être connus comme des réfugiés. Il y a un élan de solidarité mondiale occidentale incroyable pour ces réfugiés. On n'a pas vu ça pour les Juifs à la fin des années 30 et au début des années 40. Il y a un petit côté rattrapage d'ailleurs, je pense. C'est vrai de la Suisse, c'est vrai de l'Autriche d'ailleurs. Alors les pays les plus hospitaliers, ça va être la Suisse justement, Israël. Mais la France n'est pas en reste et elle va accueillir un peu plus de 12 000 réfugiés. Et donc la gare de l'Est joue un rôle très important évidemment, puisque c'est là qu'arrive une grande partie de ces trains depuis Vienne.
Ah ben c'est évident, par rapport aux réfugiés qui arrivent maintenant en France, nous étions vraiment des réfugiés de luxe, attendus par la Croix-Rouge, habillés par la Croix-Rouge, Alliance française gratuitement. J'étais dans un refuge à Neuilly, évidemment on n'avait pas d'argent. J'avais des papiers provisoires, bien sûr, immédiatement. J'ai gardé d'ailleurs ma feuille de réfugié donnée par l'OFRA. Nous étions les héros de la liberté. Ce qui m'a fait rire à 15 ans, vous pensez bien, mais quand même.
Et 68, de nouveau, une rupture brusque et brutale avec l'arrivée des chars soviétiques en Tchécoslovaquie. C'est un cauchemar, un désespoir, symbolisé ensuite en janvier 69 par la mort de Jan Palach, qui est en quelque sorte la fin de tous les espoirs d'une possible réforme du régime communiste en Tchécoslovaquie. Ceux, au moins ceux, qui sont libres penseurs, notamment les écrivains, notamment les artistes, les intellectuels, mais également, si vous voulez, en quelque sorte, les poursuivis du régime communiste. Donc les visages du printemps de Prague ont compris que c'est la fin pour eux, définitif, de possibilité de mener une vraie vie humaine en Tchécoslovaquie.
En 1968, j'étais d'abord ici même à Prague, mais je ne suis pas resté jusqu'à la fin de l'année parce que, comme vous le savez, en août, il y a eu une mauvaise surprise et là, il fallait réagir. Là, il fallait réagir très vite. On s'est retrouvé avec des amis en meeting. Après, nous nous sommes retrouvés avec quelques-uns à la faculté ici, à l'université de Prague, un ami à moi s'est tourné vers moi pour me dire « C'est le moment de foutre le camp. » Et je dis « D'accord, mais alors demain ?» Et on est parti le lendemain. Lui, il avait presque raté le train parce qu'il n'avait pas tellement envie de partir véritablement. Mais moi, j'ai pris ce qu'il fallait. Pas la machine à écrire, mais ça, un ami me l'avait apporté plus tard à Paris. Et voilà, je suis parti pour 40 ans.
La France devient de nouveau un grand symbole de ce qui est la liberté intellectuelle, de ce qui est l'avenir de l'Europe dans le sens des idées. Des intellectuels tchèques vont choisir l'exil en France et ils vont passer par les portes de la gare de l'Est. À commencer par les grands noms de la poésie, Peter Kral, un poète surréaliste, un génie de la parole, du mot.
La gare, bien connue de lui depuis le jour lointain où il y est descendu en exilé, n'est pas seulement témoin de fréquentes retrouvailles et d'adieux entre lui et ses parents ou vieux amis. Pendant les chaudes nuits d'été notamment, il aime aussi à monter vers la gare rien que pour retrouver derrière sa façade le silence des quais et des rails, semblable à celui de la mer scintillant dans une crique inconnue. À lui seul, le tête-à-tête avec ses embarcadères lunaires et leur calme invitation au départ est déjà un voyage.
J'ai assisté à plusieurs fois à la façon quand il a travaillé avec son écriture. Dans cette belle tradition de la littérature et poésie tchèque, il émerveillait notre quotidien. Et pour Petr Kral et la gare de l'Est, on peut évoquer une image que je trouve à la fois poétique et réelle. Il tournait dans cet arrondissement, dans ce 10e arrondissement, il veillait la gare, et c'était le veilleur de la gare pour ces exilés tchèques qui arrivaient. Et comme un pêcheur magique, il repêchait les poissons perdus de l'exil de l'Est. Après 68, la gare de l'Est va jouer aussi un autre rôle. Ça va plus être seulement la porte d'exil. La gare de l'Est sera également une porte de départ en y transportant illégalement les revues artistiques, politiques, les fameux samizdat.
C'est par la gare de l'Est que transitent souvent les publications clandestines dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire les samizdat qui viennent de la région ou encore les textes qui sont publiés dans l'exil. C'est également à la gare de l'Est que sont accueillis les dissidents quand ils pouvaient quitter leur pays ou quand ils étaient obligés de quitter leur pays. Et comment ne pas mentionner le rôle de Milan Kundera, un rôle d'autant plus important que sa place comme romancier a été importante aussi. Milan Kundera arrive en France en 1975. Il enseigne d'abord à l'université de Rennes, Rennes 2, puis à l'école des hautes études en sciences sociales, et c'est là véritablement que son rayonnement international se développe. Mais on peut penser aussi au futur prix Nobel de littérature, Czesław Miłosz, qui a écrit L'autre Europe, qui a inspiré plus exactement L'autre Europe, qui a été une des revues d'ailleurs, qui a été lancée en France dans les années 80, importante pour la connaissance de cet espace.
W Europie Wschodniej zawsze jest źle. W Europie Wschodniej odbywa się. W Europie Wschodniej zawsze jest niemile. Był człowiek i już nie ma człowieka za chwilę. Więc, kochana córko, stroń jak możesz od niej i nie mów, że pochodzisz z Europy Wschodniej. Alors voilà, c'est le début d'un poème de Czesław Miłosz, prix Nobel de littérature en 81, écrit en 1950, juste avant qu'il ne demande son statut de réfugié politique en France. « En Europe de l'Est, c'est toujours la poisse. En Europe de l'Est, c'est toujours la casse. En Europe de l'Est, c'est jamais mignon. Un homme est là, et du coup, personne. Alors, ma fille chérie, jamais ne confesse que tu viens de l'Europe de l'Est. Mais j'ai envie de dire qu'il y avait un autre livre qui était très important, c'est La pensée captive. C'est vraiment un choc, je pense. Parce que ça a changé complètement l'idée de ce que c'était le communisme. Ou peut-être surtout pour ceux qui ont eu encore des illusions.
Tous ces exilés intellectuels vont participer à la naissance d'une image qu'on appelle aujourd'hui « autre Europe », l'autre Europe. Cette autre Europe démontre, parce qu'ils sont profondément européens, ce qui, pour l'unité de ce continent, peut être cette autre expérience politique dans cette petite nation de l'Europe centrale. Donc leur voix apparaissent et se font entendre avec ces exilés en France.
J'ai pu partir de Pologne parce que c'était une période où les régimes staliniens de l'époque menaient depuis plusieurs mois, on peut dire même depuis 2 ans, une campagne antisémite dirigée contre les étudiants et les intellectuels. Et une fois que le mouvement des étudiants a été arrêté par la répression, le régime a poussé les Polonais d'origine juive, comme moi, comme mes parents, à partir, à émigrer. Je m'appelle Marianne Alster. Je suis né à Varsovie, en Pologne, 24 septembre 48.
Moi, j'étais vraiment très, très malheureuse de ce qui se passait en Pologne. Je voyais que mes parents étaient très malheureux de ça, même si mon père n'admettait absolument pas l'idée qu'on puisse quitter la Pologne. Et mes parents, avec mon frère, sont restés, même si leurs amis et d'autres gens partaient. Mon père, il a dit, c'est pas ces cons-là qui vont me dire où je dois vivre. Moi, je suis polonais, j'ai toujours vécu ici, et c'est moi qui décide où je vis et qui je suis. Donc ça a été très, 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 très fort. Ma mère, elle serait partie. Je m'appelle Irena. Irena Bogouche, qui était un faux nom de mon père. Je suis née en Pologne en 1948, dans une famille d'origine juive complètement athée et très communiste, surtout mon père. J'ai su que j'étais d'origine juive quand j'ai eu 14 ans. Je suis née à Varsovie. J'ai vécu 20 ans à Varsovie. Et je suis partie en 1969, au mois d'août. Je suis arrivée le 2 août à la gare de l'Est. L'ambiance qui régnait en Pologne en 69, évidemment, on le sait très bien, c'était une atmosphère très antisémite et épouvantable. J'allais régulièrement à Dworzec Gdański à Varsovie pour dire adieu à mes amis qui partaient, qu'on pensait ne plus jamais revoir. Donc c'était horrible.
Je suis arrivé en France fin juin 69 par la gare de l'Est. Je me souviens plus les départs des autres que du mien. C'est-à-dire pendant 2 mois, fin 68, 69, il y a les amis, les connaissances, les familles en entier qui partaient de gare de Gdańsk. Et ces séparations, ces adieux, je me souviens très bien. Je me souviens pas très bien mon départ à moi. Je me souviens les jours avant, mais pas le départ lui-même. En tout cas, je voyageais seul. Peut-être il y avait d'autres personnes qui sont parties les mêmes jours, parce que nous nous sommes retrouvés gare de Vienne, tous recueillis par agence juive. Je suis resté 2 semaines à Vienne. Et donc, mon départ de Vienne et même arrivé à Paris sont flous dans ma mémoire.
Moi, j'étais vraiment dans un très, très, très mauvais état. Et moi, j'étais étudiante en architecture à Varsovie, à l'école polytechnique. Et mon père, qui a fait des études d'architecture avant la guerre à Paris, parce qu'en Pologne, les Juifs ne pouvaient pas étudier. Pour lui, dans sa tête, c'était très important, quand on étudie l'architecture, il faut aller à Paris. Donc, il a tout fait pour que je puisse partir, passer mes vacances, 2 mois d'été, à Paris. Et c'est comme ça que, par miracle, j'ai reçu un passeport, parce que le passeport, on ne l'avait pas dans la poche, hein. Et je suis arrivée à Paris le 2 août, à la gare de l'Est. Je me souviens très très bien comment j'étais habillée. Ce qui est rigolo, parce qu'après c'est devenu mon métier, comment on s'habille. Je suis arrivée avec 7 heures de retard. Sûrement très fatiguée, mais surexcitée à l'idée d'arriver à Paris. Je ne connaissais Paris que des chansons, évidemment, et de ce que mon père racontait, de la rue des Lapes, de Montparnasse, de ses études à lui. Donc c'était quand même un lieu rêvé. Et d'un seul coup, moi, je me suis retrouvée là. Donc ça a été plutôt une espèce de libération, quelque part. J'ai quitté ce monde qui était très, très, très difficile et triste.
La sœur cadette de mon père est arrivée en France, à Paris, en 1933, ayant 18 ans. Elle était résistante. Elle était arrêtée par Gestapo, relâchée. Et comme elle était mariée à un juif égyptien, elle a pu, à la fin de la guerre, émigrer en Alexandrie et elle est revenue après. Donc, il était naturel que je parte en France alors que j'avais et j'ai toujours une famille en Israël. Ça, c'est une raison. Et deuxième élément, c'était que j'avais participé dans le mouvement d'étudiants. J'étais arrêté, exclu justement de l'architecture. Mais une fois, si vous étiez déchu de votre statut d'étudiant, il y avait l'armée qui vous attendait 2 ou 3 ans. Et ma mère était persuadée que je ne vais pas s'en sortir vivant et m'a poussé à partir. Donc, quand je suis arrivé là, mes préoccupations étaient doubles. Continuer mes initiations artistiques, des militer. J'avais l'impression d'une ouverture sur l'Europe, sur les autres nations. Pendant très longtemps, j'étais sur la liste noire et donc je ne pouvais pas revenir en Pologne. Je n'ai pu revenir qu'en 81, à l'époque de Solidarność. Donc, pendant très longtemps, je ne pouvais pas voir mon frère que j'ai laissé. Il avait 14 ans, moi, il avait 20 quand je suis parti. Et ils l'ont autorisé quand même, en 76, de partir pour un mois à Paris. On a couru Gare de l'Est. Il y avait une foule de gens. Et tout à coup, je vois au-dessus de toutes ces têtes, la tête de mon frère, quasiment inchangée depuis 7 ans, qui se déplace. Et ces souvenirs de soulagement, c'est le plus fort souvenir que j'ai des gardes de l'Est que je l'ai retrouvé.
Que j'ai quitté la Pologne juste avant le coup d'état du général Jaruzelski, le coup d'état, et je ne suis jamais rentrée indéfinitivement en Pologne. J'y vais souvent, mais ma vie est ici. Je m'appelle Agnieszka Grudzińska. Mon nom de jeune fille, c'est Danilowicz, qui est le nom que mon père a changé après la guerre. Son vrai nom, c'était Davidowicz. Il a changé donc de lettre pour avoir un nom à moins juif, puisqu'il il cachait sa judaïté, surtout à moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Le 13 décembre, je suis en Suède, il fait moins 30, il neige, et les communications, les appels sont coupés avec la Pologne. Je suis dans un état complètement, dans un état second. J'avais deux petits-enfants avec moi, mon fils Piotr, 9 mois, et ma fille Joanna, 4 ans. Et je ne sais pas quoi faire, je ne pouvais pas rentrer en Pologne. Si, bien sûr que je pouvais, mais à mes risques et périls. Quand j'ai appris qu'une amie à moi est rentrée avec les enfants, justement, elle a été arrêtée à la frontière, et les enfants mis dans un orphelinat, et mon mari à l'époque était interné pour avoir milité dans la solidarité. Donc, à l'époque, on croyait que vraiment c'est à vie, qu'il n'y a plus de solution, que c'est fini, quoi, la Pologne. J'appelle Irena, j'ai dit, écoute, je ne sais pas quoi faire. Et héroïquement, elle m'a accueilli avec mes deux enfants, alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas, absolument pas être sûr de ce que je deviendrais. C'est à tout à son honneur. La Pologne, dans tout ça, elle est très forte, la Pologne, dans tout ça. Et je pense avoir trouvé, j'espère, du moins, un équilibre heureux entre la France et la Pologne. Je ne dirais pas que je suis française, je ne dirais pas que je suis polonaise, mais je suis moi, Agnieszka Grudzińska, qui vit en France et qui vient de Pologne.
C'est l'Est. C'est mon enfance. C'est mon enfance. Et tout ce que j'ai laissé, pour lequel j'ai pas nostalgie, mais qui m'est nourri. Je sais que une partie de mes ressources viennent de là, de l'Est. Je vais vous dire une anecdote, alors. On est sorti avec ma tante de la gare de l'Est, et puis on devait chercher les taxis. Il y a le passage Clouté. Je m'avance alors qu'il y a le feu rouge. J'avance, et tout à coup, je constate qu'il n'y a pas d'agent de police qui arrive et qui me verbalise, et qui me dit que je me comporte d'une façon incorrecte. Je me suis dit, merde, c'est la liberté peut-être. Donc c'est lié à la gare de l'Est. C'est assez infantile, mais ces sentiments étaient très forts pour moi. Et j'ai toujours, quand j'ai la possibilité de passer au rouge, je le fais.
Avec les historiens et chercheurs Antoine Marès, Clara Royer, Jerzy Nielica, Dorothea Bonnekamp, Patrice Armager, Catherine Gousseff. Et les passagers de la gare de l'Est, Irena Bogouche-Grégory, Agnieszka Grudzinska, Rachel Hertel, Yuli Falou, Adam Biro, Dan Bursea et Marianne Alster. Remerciements à SNCF, Cécile Boez, Marie-Noëlle Polino, Jean-Philippe Chantecaille, Margot Michelin et à Sacha Koulaïeva. Archivina, Mylène Touchet. Documentation, Annelise Signoret. Prise de son, Benjamin Thuot, Éric Boisset, Virginie Lorda, Corentin Bailly et Claire Levasseur. Mixage, Hervé Dubreuil. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Sur une idée d'Adam Biro, Gare de l'Est, aller et retour. Un documentaire de Christine Le Cerf, réalisé par Franck Lilin. Prochain épisode, Mémoire de réfugiés.